Chapitre 22. Pou. Le vent s'engouffrait dans la vallée. Il prenait de la vitesse à chaque méandre, s'appuyait sur les falaises comme sur le rebord d'une piste de luge, pour débouler plus rapidement encore dans la longue ligne droite qui s'ouvrait sur l'estuaire. L'albatros tanguait. Ils avaient décidé de reprendre la mer trop tôt, trop vite, à peine la marée remontée. Coincés entre les courants du fleuve qui les entraînaient vers le large et l'énergie de la marée qui les repoussait, le voilier gitait, telle une coquille de noix ballottée dans les remous d'un caniveau. Tous les marins s'affairaient, agrippés aux voiles. Novak, le plus fort des soldats, secondait Braza pour maintenir la barre. Agnel avait tenté de rester en haut de la hune, mais avait dû renoncer, et était redescendu lui aussi. Comme les autres, il s'accrochait au cordage, aidé de Cléa et Solveig.
« Tenez bon !»
criait Osman, carte au poing, avant qu'un coup de vent plus violent ne la lui arrache des mains et qu'elle ne s'envole plus haut que les mouettes piaillant autour du voilier.
« La marée va faiblir !»
continuait d'affirmer Osman.
« Faut qu'on tienne jusque-là !»
Leurs vestes claquaient au vent. Leurs cheveux volaient en les aveuglant. Des feuilles, des branches et surtout des gerbes d'eau fouettaient leur visage. Une vague salée leur brûlait la peau, suivie d'une vague d'eau douce qui la nettoyait. Les bras s'épuisaient.
« Encore quelques minutes !»
les encourageait Solario, arc-bouté avec Leonarda, à maintenir le plus tendu possible la voile basse sur le mât de misaine. Une brusque bourrasque les surprit à bâbord. Les lunettes d'Hélios, chargées du contrôle des stocks de nourriture et de l'étanchéité des cales, valsèrent à leur tour. Il eut juste le temps de maudire le ciel avant qu'une trombe d'eau se déverse dans sa bouche ouverte et sur ses yeux si peu habitués à la lumière. L'albatros ne reculait ni n'avançait. Braza et Novak tenaient bon la barre. Agnel passait d'un bord à l'autre, vérifiant que chaque nœud marin était bien serré, au mépris du danger. Il était parfois soulevé sur quelques mètres par un coup de vent plus violent, puis atterrissait en souplesse. Malgré les prévisions optimistes d'Osman, la tempête dura encore près d'une heure. Les marins ne cédèrent pas, pas plus que le vent du fleuve, mais petit à petit, la mer, elle, recula. Alors, l'albatros se stabilisa, mais le courant l'entraîna inexorablement d'où il venait, et même plus loin encore, au beau milieu de l'estuaire, où il s'échoua. Tous les marins se laissèrent tomber sur le pont, épuisés.
« Il faudra réessayer !»
prévint Solario.
« Dès que la mer sera étale !»
C'est-à-dire, tous l'avaient appris, pendant ce bref moment entre deux marées où la mer n'est ni montante ni descendante. Ils avaient conscience que sortir de l'estuaire à contre-courant serait une opération délicate. Il faudrait jouer non seulement avec la marée, mais aussi avec les vents tourbillonnants. Pour l'instant, cependant, l'heure était au repos. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il y avait à bord bien assez à boire et à manger. Suffisamment pour 20 marins, plus un passager supplémentaire.
« Viens, Agnel, viens avec moi !»
Solario ouvrit la trappe et tous les deux descendirent vers les cabines. Il fallait se tenir accroupi, tant la cale était basse de plafond. On manquait de prendre une poutre dans la tête à chaque mètre, et le couloir était si étroit qu'on ne pouvait s'y engager que les uns derrière les autres et jamais s'y croiser. Solario poussa la porte de bois d'une des cabines.
« C'est nous, n'aie pas peur, »
fit-il d'une voix douce.
« C'est nous, Pou. »
Solario et Agnel baissèrent la tête et entrèrent. Deux yeux, mi-rassurés, mi-effrayés, les dévisagèrent.
« C'est fini, Pou, »
répéta Agnel d'une voix rassurante. « Le bateau ne va plus bouger pendant un moment. Tu peux te reposer. » Agnel ignorait si l'enfant devant lui, terré au fond de la cale, comprenait ce qu'il disait. Il constatait juste qu'il tremblait de la tête aux pieds, mais que leurs mots, calme et apaisant, le rassurait. Lorsqu'ils avaient découvert l'enfant sur le lit de sa chambre au troisième étage de la clinique des Immortels, ils avaient longuement hésité, puis beaucoup discuté. Que faire de lui? Il était blessé, une longue entaille s'étirait tout le long de son bras, ce qui expliquait sûrement pourquoi il se trouvait sur ce lit d'hôpital, seul, mais sa blessure n'était pas grave, et déjà presque cicatrisée. Deux choix s'étaient alors offerts aux marins de l'Albatros. Soit reprendre la mer et l'abandonner ici, dans le jardin, au milieu des animaux de la basse-cour, soit l'emmener. Ils avaient évidemment d'abord envisagé la première solution. Pourquoi priver un enfant de sa liberté? Il ne semblait rien comprendre à ce qu'il racontait et était incapable de s'exprimer autrement que par de brèves syllabes incompréhensibles. L'enfant devait avoir au maximum 10 ans, mais il était difficile de savoir si dans sa tête il avait 1, 3, 6 ou 10 ans. Pourtant, rapidement, l'idée de l'abandonner avait posé des difficultés. Aucun autre enfant de la ferme n'était réapparu. Peut-être s'était-il définitivement sauvé, loin, très loin. Que deviendrait celui-ci? Il paraissait incapable de se débrouiller seul. D'évidence, il avait été abandonné, ou oublié, et même s'il retrouvait les autres, est-ce qu'il ne serait pas banni parce qu'il portait désormais sur lui l'odeur des étrangers? Plus ils avaient réfléchi, plus la perspective de le laisser sur la rive alors que tous remontaient sur l'Albatros leur avait paru intolérable. Ils avaient donc logiquement décidé de le ramener. Pour son bien. Uniquement pour son bien. Personne, ni Osman, ni Braza, ni Solario, ni Engel, n'osa avouer que, au fond d'eux, ils avaient avant tout envie d'en savoir davantage sur cet enfant. Qu'ils voulaient l'étudier. Aucun n'osait se l'avouer, car cela aurait été considéré cet enfant muet comme un de ces animaux exotiques, les lions, les tigres ou les girafes que les explorateurs apportaient de leur safari. Agnel et Solario s'assirent sur le lit. « Tu as soif, Pou ?» demanda le savant. Agnel mima le geste de quelqu'un qui boit. L'enfant ne réagit pas. Ils avaient décidé de le baptiser « Pou » pour une raison simple. C'était le seul mot qu'il prononçait. Il n'avait d'abord rien dit, mais quand dans la chambre de la clinique il s'était approché et qu'Agnel avait frôlé ses longs cheveux blonds en lui tendant la main, l'enfant avait crié « Pou, Pou, Pou !» Ses cheveux étaient effectivement infestés de poux, mais ce n'était forcément qu'un hasard. Comment cet enfant incapable de s'exprimer aurait-il pu connaître le nom de ce parasite qui pullulait dans ses cheveux? D'ailleurs, la première décision qu'ils avaient prise après avoir proposé à Pou à boire et à manger avait été de lui raser la tête. Solario s'en était chargé. Il s'était attendu à ce que Pou proteste, se débatte, hurle. Helios et Novak s'étaient tenus prêts à le maintenir serré pour qu'il ne se blesse pas avec les lames des ciseaux. Mais non, Pou s'était montré d'une étrange docilité, comme soulagé de ne plus porter sur ses épaules cette ignace lourde et sale et sans doute terriblement irritante. Pou, en fait, se montrait docile pour tout, et les cheveux désormais rasés de près, il ressemblait encore davantage à un gros bébé. La seule chose à laquelle il semblait tenir était la montre posée sur le chevet à la clinique, une grosse montre d'adulte de la marque Lexor, qu'il tenait en permanence entre ses doigts, et dont il fixait, sans jamais se lasser, la course de la trotteuse. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il paraissait même capable de deviner le moment où le tic-tac allait ralentir, et remontait alors avec concentration le ressort de la montre, puis contemplait de nouveau les secondes qui défilaient. Rapidement sur le bateau, tous les marins l'avaient adopté, à l'exception peut-être de Novak et d'Helios, les deux soldats qui continuaient à se méfier.
« On ne sait pas ce qu'ils pensent, » argumentait-il. « Tu ne sais pas non plus ce que pense une vache ou un poney, » répliquait Braza, « et tu n'as aucune raison de t'en méfier. »
Ni Agnel ni Solario n'aimaient la comparaison. Ils étaient persuadés que, à force de patience, ils parviendraient à communiquer avec Pou. Solario, quand il ne testait pas toutes sortes d'expériences pour entrer en contact avec Pou, ou quand les conditions n'étaient pas favorables pour essayer de sortir l'Albatros de l'estuaire, se penchait sur les archives de la clinique des Immortels récupérés dans les chambres et les bureaux. Il en avait ramassé 2 sacs entiers. Il y passa une journée et une nuit entière avant d'inviter Agnelle à le rejoindre au petit matin, alors que personne n'était encore réveillé et que les dernières étoiles s'accrochaient au mât de l'albatros, tels les lampions d'une fête qui s'achève.
« J'ai compris, Agnelle ! J'ai compris qui sont les enfants de la ferme !»
Agnelle ne disait rien. Il observait le magnifique vol d'un martin-pêcheur sur la mer d'huile.
« J'ai croisé toutes les archives. Je n'ai aucun doute. C'est assez simple, en fait. »
Le martin-pêcheur apparaissait, disparaissait.
« Souviens-toi, quand le nuage est passé, il y a 14 ans, seuls les bébés dans le ventre de leur maman ont été épargnés, parce qu'ils n'avaient pas besoin de respirer. Et si nous sommes nés, c'est que notre maman a survécu assez de temps pour accoucher. »
« Je sais tout ça. »
« Normalement, » continua Solario, « une femme accouche au bout de 9 mois de grossesse, à 1 ou 2 semaines près. C'est le temps qu'il faut pour qu'un bébé soit parfaitement constitué. On peut supposer que c'est ce qui nous est arrivé, mais... »
Solario hésitait à raconter la suite. Ses grands yeux noirs se perdirent au loin vers la clinique blanche au-dessus de l'estuaire.
« Mais imagine !» poursuivit-il en accélérant son débit, rattrapé par l'excitation. « Imagine qu'une femme enceinte, après le passage du nuage, ne survive pas assez de temps pour que le bébé dans son ventre ait 9 mois. Elle sent qu'elle va mourir et que son bébé est bien vivant. Que va-t-elle faire ?»«
Elle va essayer d'accoucher avant de mourir ?»«
Évidemment ! Elle va essayer de mettre au monde son bébé avant terme. C'est le terme médical. On peut accoucher alors que le bébé n'a que 7 mois, ou même 6, ou peut-être moins encore, je sais pas. »
Mais... » Solario continuait d'observer les falaises désertes. Jamais aucun autre enfant n'y était apparu depuis leur débarquement, il y a quelques semaines maintenant.
« Ces bébés portent eux aussi un nom médical. On les appelle des prématurés. »
Agnelle paraissait troublée. Son regard se posa sur une mouette perchée sur le panier de la hune au-dessus d'eux.
« C'est ce que racontent les archives de la clinique des Immortels !» enchaîna Solario. « Cet hôpital est devenu une maternité, spécialisée. Des mamans, venues de partout, s'y sont précipitées pour donner une chance à leur bébé. J'ignore combien elles étaient, beaucoup apparemment, énormément même, d'après les archives. »
L'estuaire était vide et silencieux devant eux. Agnelle bafouilla.
« Et ces bébés prématurés, ils pouvaient survivre ?»«
Oui, même s'ils n'avaient pas encore le réflexe de téter. » Et s'il ne devait pas peser plus qu'une grosse souris ?
Et, continua Agnel, plus troublé encore, il naissait complet ?
Solario prit le temps de fixer longtemps la clinique.
Oui. Du moins, il naissait avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 1 ventre et 1 cœur. Ils étaient juste plus faibles, plus chétifs. Et leur développement, sans vitamines, sans compléments alimentaires, allait forcément être retardé. C'est pour cela qu'ils paraissent avoir 4 ans de moins que nous. Alors qu'en réalité, ils sont plus vieux, de 2 ou 3 mois.
La mouette, perchée au sommet du mât, s'envola dans le ciel et disparut vers le large, comme si elle connaissait une île lointaine où se poser, ou un autre voilier.
« Et leur cerveau ?» demanda Agnelle. « À 6, 7, 8 mois, il est complet ? Je ne sais pas. »
Quelques jours plus tard, l'albatros n'était toujours pas parvenu à s'échapper de son piège de l'estuaire, entre courant du fleuve et marée. Haussmann estimait qu'il faudrait attendre les plus grandes marées et que le vent souffle du sud-ouest pour gonfler les voiles. Ces conditions seraient forcément réunies à un moment donné, il ne faudrait pas les laisser passer. En attendant, les marins faisaient des provisions de poissons séchés et d'eau douce récupérées dans des tonneaux. Aucun enfant n'avait de nouveau surgi sur la falaise, près de la clinique des Immortels. Souvent, Pou sortait de sa cabine dans la cale et s'installait sur le pont du bateau. Il restait ainsi des heures, assis, à regarder la trotteuse de sa montre. Solario et Agnelle passaient beaucoup de temps à essayer de communiquer avec lui, sans résultat. Ils finissaient par croire qu'effectivement, son cerveau n'était pas complet, et qu'il était incapable de faire le lien entre ce qu'il voyait, éprouvait, et les sons qui sortaient de sa bouche, ou de la bouche de ceux qui lui parlaient. Il se contentait de répéter des syllabes incompréhensibles.
Pou, zo, dio, ba, cam, yak, piou.
Il n'était même pas certain qu'il comprenne son nom. Pou était un enfant de 14 ans, enfermé dans un corps de 10 ans, apparemment moins intelligent qu'un enfant de 12 mois. Qui les a aidés ? Demanda Agnel ce matin-là avant de monter à la une du grand-mât. Solario, assis sur le pont, étudiait encore des archives de la clinique des immortels.
« Des médecins, des infirmières, des sages-femmes, quand elles étaient encore vivantes. »«
Zou !»
fit Pou à côté d'eux.
« Non, précisa Agnel. Après, je veux dire, quand ils se sont retrouvés comme nous, sans adultes. Regarde Pou, il n'est pas capable de se nourrir, de se laver, ni même de se protéger des animaux sauvages. Comment ont-ils fait pour survivre ?»«
Zou !»
Pourquoi Pou était-il allongé sur ce lit avec une blessure cicatrisée ? Continua de s'interroger Agnel.
Pourquoi ces bouquets de fleurs posés dans certaines chambres ? Ce sont des fleurs séchées, d'accord, mais ces bouquets n'ont pas 14 ans. Et Pou serait incapable de cueillir un bouquet.
J'en ai aucune idée,
avoua Solario.
J'espère que les caméras de surveillance qu'on a emportées pourront parler.
Tchou !
Agnel se retourna vers Pou. C'était l'une des premières fois que l'enfant prématuré ne regardait pas sa montre, mais le ciel. Il paraissait fixer un point précis dans l'azur sans aucun nuage. Agnel attendit quelques secondes avant qu'un héron traverse l'estuaire.
« Zo !»
cria Pou à côté de lui.
« Zo !»
Zo signifiait oiseau. Agnel, bouleversé, regarda Solario. Pou savait parler. Pou était capable de comprendre ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, et de l'exprimer. Si on lui apprenait.